Rappelez, vrai Seigneur, que tu es digne de louange. Et cela remplit les cœurs. Cœur éclate afin de pouvoir te louer pour les grandes choses que tu fais en notre faveur. Nous sommes ici ce soir pour cela. Et nous nous sommes réunis aussi pour écouter ta parole. Que cette parole que nous recevons par ta grâce, si c'est la tienne, puisses-tu la confirmer dans ses promesses, dans ses effets, dans ce que tu as résolu pour nous. Nous nous attendons à toi et nous te demandons de bien vouloir nous pardonner nos péchés, que ta grâce nous environne. Tu connais les besoins de chaque cœur ici présent et de ceux qui ne sont pas présents, qui écouteront par la suite, que tu confirmes ta parole. Que chacun reconnaisse ce soir que ta parole est la vérité, que tes promesses ne sont pas faites en l'air. Tu as juré par toi-même, Seigneur. Tu n'oublieras pas cela, certainement, parce que tu n'es pas oublié. C'est nous qui le sommes. Ayons nos promesses, nous oublions nos engagements. Mais toi, tu n'oublies jamais les tiens. Sois béni, sois loué. Parle, Seigneur, et nous t'écouterons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Allons lire ce soir dans Éphésiens chapitre 2. Versets 11 à 12. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous intitulons le sujet de ce soir Sans Christ. Sans espérance. Lorsqu'on est sans Christ, on est privé du droit de cité en Israël. On est privé de toute chose. Comme si vous étiez privé du droit de cité en Belgique, vous seriez privé de mutuelle. Vous seriez privé de droits sociaux, parce que vous n'avez pas droit de cité. Vous seriez étranger aux alliances de la Belgique. Maintenant, nous en arrivons à sans espérance. C'est un triste état. qu'être sans espérance et être sans Dieu dans le monde. Mais ce soir, nous ne verrons que la partie sans espérance. C'est un triste état. Dans Actes chapitre 27, nous allons nous en servir pour illustrer cela, de pouvoir être sans espérance. Acte 27. Verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Ce vent, remarquez que ce vent souffle après. Euraquilon, c'est un vent de l'est en fait. Jusque-là, ils avaient un léger vent du sud. Au verset 13, ils soufflaient, tel point qu'ils étaient confiants, ils se croyaient maîtres de leur dessein, et ils sont partis. Petit combat du sud, ça ne leur posait pas de problème. Les vents sont les combats. Sont les combats presque de tous les jours que l'on affronte, que l'on passe, et puis on se croit fort. On disait, gloire à Dieu, parfois ça nous sort, j'ai vaincu telle chose. Mais ça peut être juste un léger vent du sud. Mais Euraquilon, c'est un autre type de vent. C'est un vent qui vous fait réfléchir. Il s'est déchaîné sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. C'est un combat qui le dépassait. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Un homme, une femme qui se laisse aller à la dérive, c'est un fataliste. Il est complètement résigné. Ça lui arrive, bon ben, ça m'arrive. Je n'y peux rien, je ne peux rien y faire, c'est ça. Et il se laisse aller. Vous êtes emporté selon le vent. Un chrétien ne doit jamais se laisser aller à la dérive. Quel que soit le vent, il peut être impétueux, mais celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est même plus grand. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe, alors qu'avant de partir, ils croyaient qu'ils en étaient maîtres. Là où nous allons, nous ne sommes pas maîtres de notre chaloupe. On ne sait pas ce qui nous attend au coin de la rue, mais nous avons quelqu'un. Quand on est sans Christ, on ne sait pas ce qui est juste au coin, ce qui nous attend. Après avoir hissé la chaloupe, donc, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Dans la crainte de tomber sur la Sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. À ce moment-là, un homme qui en arrive là, il est perdu. Ça va? Il n'a plus rien de quoi s'attendre. Il est perdu, emporté par le vent. Emporté par la douleur, emporté par la tristesse, emporté par la douleur, par toutes sortes de choses contraires dans sa vie. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. C'est le genre de vent qui nous fait réfléchir. Qu'est-ce qui m'alourdit? Qu'est-ce qui fait que je sois aussi secoué? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sanctification. Ah, peut-être, c'est parce que j'ai volé tel truc chez frère Thomas, sa sœur Céline, quelque chose dans ce genre. Peut-être c'est ça, je vais restituer. On va chez Thomas, on restitue. On restitue chez Céline. C'est, on essaye de mettre sa vie en ordre, mais ça ne va toujours pas. Battu par la tempête. Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Tout ce qui vous alourdit là. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Ce sont les objets lourds qui maintiennent le navire stable. Vous perdez toute stabilité. Et la pire des choses, c'est que les navires à l'époque, lorsqu'ils n'avaient pas de boussole pour se diriger selon le soleil et les étoiles. La pire des choses, c'est que le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Donc, ils ne savent même pas où ils vont. Où vous en êtes. Vous ne savez plus vous situer. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Sans espérance. Quand on regarde à ces gens, à l'équipage, aux passagers qu'il y a dans le navire, nous voyons, il y a des prisonniers, bien sûr. Hein, si on regarde au verset premier, il y a Paul, il y a quelques autres prisonniers qu'on a remis au centenier, et il y a l'équipage. Et lorsqu'on regarde ce groupe d'hommes, spirituellement parlant, nous voyons deux groupes. Et ces deux groupes disproportionnés. Quasiment tout le navire est composé de païens. Dites amen à ça. Donc, sans Dieu. Mais dans le navire, il y a un homme en Christ. Un seul. Et c'est Paul. Paul, il dit ceci, c'est un homme en Christ. Dans 2 Corinthiens 12, il parle de lui. Nous savons que c'est de lui qu'il s'agit, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 12, il dit au verset 2, « Je connais un homme en Christ. » C'est de lui qu'il parle. « Qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. » Dieu le sait. Et si vous lisez son témoignage, vous pouvez lire que, ici dans 2 Corinthiens 12, vous pouvez lire que Paul sait où il va. Il sait ce qu'il en est. Ce qu'il fait, il dit aux Philippiens, vous savez, pour moi, la mort m'est un gain. Philippiens 3. Il sait où il va. Le navire va couler. Paul sait où il va. Il dit ceci au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et nous avons deux groupes de personnes où tout un navire est désemparé et sans espérance, mais il y a un homme qui reste inébranlable au milieu de cette tempête. Donc, Christ est l'espérance. Il a une espérance, c'est Christ, 1 Timothée chapitre 1er. C'est merveilleux d'être en Christ. Devant Héraclion, être en Christ, c'est merveilleux. En plein milieu de Héraclion, être en Christ, c'est merveilleux. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Seigneur et de Jésus-Christ notre espérance. Son espérance à lui et à Timothée. Devant Héraclion déchaîné, les uns sont donc fatalistes, mais Paul, il dit ceci, il garde confiance en Dieu. Étant en Christ, il garde confiance en Dieu. Il sait que Dieu est plus grand que Héraclion. Il sait que c'est Dieu qui a créé les vents, les marées, et il sait que Dieu tient la tempête entre ses mains. Il tient la chose qui vous secoue, qui vous pousse à regarder derrière, à vous dépouiller, à jeter, pour voir si tout va aller mieux. Mais vous n'avez pas besoin de cela. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être en Christ. Lui vous dira ce qu'il faut enlever. Qui ça? Zachée, en présence de Jésus-Christ, lui-même a commencé. Il a dit, je vais arranger ceci, Seigneur, je vais arranger cela. Si je fais tort à tel, Christ dit, écoute, le salut est entré. Pas parce que tu vas faire tout ça, mais parce que tu es... Comment il lui dit ça encore? Parce que le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci, n'est-ce pas, est un bien-aimé de l'Éternel. Est un fils d'Abraham. Si on revient dans Actes chapitre 27, pendant qu'au verset 15, nous voyons que le navire tout entier se laisse aller à la dérive, au verset 21, nous lisons ceci. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » La parole de Dieu nous prévient toujours. Elle nous prévient, faites attention à ce que vous faites. Oui. Je parlais hier à une jeune femme. Je l'ai regardée, je lui ai dit, tu sais, elle a des enfants. Tu sais, la manière dont tu te comportes, tu es en train d'instruire tes enfants. Tu peux dire que tu t'en fiches, mais tes proches, tes parents s'inquiètent pour toi. Et si tu leur montres cet exemple-là, un jour, toi, tu t'inquiéteras pour eux. Ouais. Parce que, vous savez, on le dit souvent aux jeunes gens, ils ont difficile à comprendre ça. Surtout les jeunes filles. Je l'ai une fois dit il y a très longtemps, lorsqu'on était à la rue Barra. Quand vous passez près d'un chantier, si vous êtes bien habillé, les ouvriers là n'oseront rien vous dire. Mais si vous vous habillez d'une manière inappropriée, c'est là que les sifflets vont commencer. Les harcèlements de rue vont commencer. Toutes sortes de ces choses vont commencer parce que votre accoutrement attire ce genre de réaction. Ceux qui vous disent, oh, mais tu es bien comme ça, ils ne vous aiment pas. Ceux qui vous aiment vous diront des choses, peut-être que vous n'aimerez pas, mais ils vous aiment. C'est mon frère Jean-Claude Aboumrémy qui parlait une fois à une jeune femme qui lui a dit, écoute, la femme parlait, puis il a regardé. Je ne sais pas très bien comment ça s'était passé, c'est lui qui racontait. Et il a dit, tu sais, la manière dont tu es là, tu es habillé là, si tu vas faire un petit tour du côté de la gare du Nord, tu ne verras aucune différence entre celles qui sont là à essayer de racoler les gens et toi. Ça lui a fait réfléchir. Voyez? Et ici, Paul les a bien prévenus. Il leur a dit, n'y allons pas, parce que le voyage ne va pas se faire sans danger. Il y a des tempêtes qui s'annoncent. Depuis quand tu es météorologiste, toi? Oui. Ils n'ont pas voulu écouter Paul. Ils ont parlé au capitaine. Le capitaine a dit non. Quand je regarde le soleil, les nuages, je regarde, il y a moyen, on va faire le voyage en 3-4 jours, ça va bien se passer. Finalement, ils ont choisi entre écouter le capitaine et écouter Paul. Ils ont préféré écouter le capitaine. Et pourtant, celui qui avait un intérêt à ce que ce navire ne soit pas détruit, c'était le capitaine. Paul n'avait aucun intérêt. Capitaine, c'était son travail, c'était son job. Par contre, Paul, c'était un prisonnier. C'est vrai que Paul avait le désir d'aller à Rome depuis longtemps. Mais lorsque ce voyage a été décidé, eh ben, ils sont partis. Il y avait des vents contraires, hein, mais le capitaine avait dit, il y a moyen de contourner ces vents contraires, n'est-ce pas? Vous pouvez voir ça au verset 4. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Oui. Et ils sont partis. Et Paul leur dit maintenant, au verset 21, alors Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit, ils étaient quasi en panique, sans espérance. Mais Paul, l'homme en Christ, il dit, ô homme, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Vous avez jeté toute la cargaison. Votre commerce est à l'eau, au propre comme au figuré. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Mais pour le navire, hein, oubliez-le. Oubliez le navire. C'est pour que vous ne placiez pas votre espérance dans le navire. Ce ne sont pas les biens matériaux de ce monde qui vous tiennent. Ça va? Ces choses-là, on peut les perdre très facilement. Et quelle autorité, par quelle autorité tu nous dis ça, Paul? Un ange du Dieu, verset 23, à qui j'appartiens. Quand on dit mon Dieu, ça veut dire que lui, il est Dieu, moi, je suis sien. Et non pas l'inverse. Ce n'est pas un Dieu que l'on prend, que l'on met dans la poche. C'est un Dieu devant lequel on s'agenouille, devant lequel on se prosterne, à qui l'on parle, à qui l'on s'attend. Et il dit, moi j'appartiens à ce Dieu-là, et je le sers, et que je sers, un de ses anges m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Autrement dit, vous avez le privilège de naviguer avec un enfant de Dieu, avec un homme en Christ. Et Dieu a envoyé un ange pour lui dire que rien ne t'arrivera. Et l'ange est un messager. Il a amené un message du Dieu vivant, dit à Paul de ne pas craindre Héraculon, il ne lui arrivera rien. Ce qui fait, Héraculon peut souffler comme il veut, il peut gonfler les muscles comme il veut. Paul avait cette conviction que rien ne pouvait lui arriver, que certainement il arriverait à Rome. Non seulement parce que l'ange lui avait dit, mais quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que Dieu est capable de vous la donner. Paul avait, avec ferveur, demandé à Dieu que Dieu lui permette d'aller à Rome. Il a prié, il a peut-être jeûné, je n'en sais rien. Il a offert des actions de grâce. Pour cela, il avait cette envie, ce désir en lui d'aller à Rome. Et quand vous avez ce désir et que vous demandez à Dieu, Dieu exauce les prières. Croyez-vous? Vous savez, dans 1 Corinthiens 1, dans 2 Corinthiens 1, au verset 20, il nous est dit que l'Amen est en Christ. Or, Paul était en Christ. En ce qui concerne les promesses, hein, les promesses, n'est-ce pas? Si on lit cela, 2 Corinthiens, vite fait. 2 Corinthiens. Un 20. On peut même commencer au 19 pour avoir la phrase complète. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. C'est-à-dire qu'en Christ, hein, il n'y a pas de doute. Tout est comme la prédication l'a dit. Une prédication inspirée, bien sûr, par le Saint-Esprit. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes, sans exception, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Donc Paul avait cette envie d'aller à Rome. Et si vous avez ce désir d'autre chose, pas seulement d'aller à Rome, vous avez un désir de soulagement. Vous avez un désir de délivrance. Désir de consolation. Désir de... Je ne sais pas. Qu'importe. Tant que Dieu vous le met à cœur. N'est-ce pas? Demandez-le avec foi en Dieu. À Dieu. Et Dieu entend les prières. Dans Romains chapitre 1er, peut lire. Verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Le Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse de vous, demandant continuellement dans mes prières, sans m'arrêter, d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Le désir que Paul avait d'aller à Rome n'était pas un désir de tourisme, que je voudrais aller voir Rome, la ville lumière ou je ne sais pas comment on l'appelle. Non, ce n'était pas ça. Son but correspondait à la volonté de Dieu. Son but était agréable à Dieu. Frère Branham dit, quand vous priez, vous demandez quelque chose, la guérison, la consolation, quoi que vous demandiez, regardez quel est votre motif, quel est votre objectif. Pourquoi vous demandez votre guérison? Si c'est pour faire comme le monde, mais quel est le motif de votre demande? Comme aujourd'hui, lorsque on se présente à une embauche, on vous demande des lettres de motivation. On regarde si vous êtes vraiment motivé. Alors, Paul, quelle est ta lettre? Qu'est-ce que tu dis dans ta lettre de motivation? Il dit, je veux communiquer aux Romains quelques dons spirituels. Pourquoi tu veux leur communiquer ça? Pour qu'ils soient affermis. Dites amen à ça. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et Dieu a entendu cette prière, comme il avait entendu la prière de Salomon autrefois. Et Dieu a entendu la prière. Maintenant, quand vous avez ainsi prié, ne commencez pas à vous imaginer comment Dieu va vous exaucer. Dieu a sa manière d'exaucer. Paul ne s'attendait pas qu'en allant à Rome, il irait en tant que prisonnier. Mais c'est en tant que prisonnier qu'il y était allé. Et pendant tout le chemin, le gardien de ses prisonniers lui était chaque fois favorable. Vous voyez? Donc, il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Et il dit ceci, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. Soyez assurés, soyez rassurés, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Vous faites fi de toutes les circonstances. Paul était un fervent croyant en Christ, en un Christ vivant, pas en un Christ mort, en un Christ ressuscité d'entre les morts. Paul y croyait de tout son cœur. 1 Corinthiens 15. Vous savez, vous connaissez ce cri dans l'Ancien Testament où les gens, quand ils voulaient agir au nom du Seigneur, c'était souvent l'Éternel est vivant. Vous devez croire que votre Dieu est vivant, que ce n'est pas un Dieu inerte. 1 Corinthiens 15, les quatre premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les temps où je vous l'ai annoncé, dans les termes, pardon, où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Ne changez pas à cette parole telle que cela nous a été annoncé. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, puis aux douze. Il était un fervent croyant en un Christ vivant. Qu'importe sa condition, qu'importe la condition dans laquelle il pouvait se trouver. Vous savez, il y a un truc qui me poursuit assez souvent, vous le savez, c'est périodiquement, c'est la goutte, cet excès de protéines dans le sang, de purines dans le sang. Et ça fait très mal. Aux orteils, ce coup-ci, maintenant, c'est monté dans la main, ma main droite. D'abord, j'avais juste le doigt, le majeur. Maintenant, il y a l'index. J'ai difficile à utiliser la main droite. Je suis droitier. Dimanche, je suis venu, j'avais très mal. Mais quand j'arrive, je trouve mon fiston, il était mal aussi. Malgré que moi-même, je suis mal, qu'importe les circonstances. Il était mal, il était là, toussé. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu de voix. Moi, je n'entends pas de voix. Je dis, viens, on va prier. On a prié. Alors que moi-même, j'avais mal. Oui. Paul était prisonnier. Tout en étant prisonnier, il obtient quelque chose pour les autres. Pourquoi? Parce que Paul a confiance en ce Dieu-là qu'il a prêché. Et j'ai tout autant confiance en ce Dieu-là qui nous a été apporté, dont il nous est écrit ici, selon les Écritures. C'est l'Écriture qui dit, si quelqu'un est malade, que les anciens l'oignent d'huile. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Et je suis, que j'ai mal au doigt ou pas, j'ai prié pour ça, mais ça me faisait de plus en plus mal. Que ça me fasse de plus en plus mal ou pas, je sais une chose, c'est la vérité, la parole de Dieu. Oui. Et c'est valable pour nous tous, partout. Parfois, pour nous-mêmes, ça peut mal aller. Mais quand quelqu'un est dans le besoin, priez pour lui. C'est la parole de Dieu qui le dit. La résurrection de Christ, puisque nous sommes dans 1 Corinthiens 15, libère le chrétien. Parce que, autrefois, quand il était païen, il était prisonnier des croyances traditionnelles. Ça va? J'avais un neveu, il n'est plus là. Sa date d'anniversaire, c'était le 19 juillet. J'écris à son père un message, j'écris à mon frère, je lui dis, tiens, aujourd'hui c'est l'anniversaire de... Mon frère est toujours catholique. Il me dit oui, c'est vrai. J'ai lu ton message, j'ai communié avec lui. Il est là-haut. Moi, je dis à mon frère, si tu connaissais ces choses que je connais, oui, je sais que ça pèse là-dedans. Mais connaître Christ et sa résurrection, ça vous libère de certaines croyances dont vous n'êtes pas sûr. Paul est certain de ce qu'il dit. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, hein, c'est que notre foi, elle est vaine. Il dit, je suis certain de ce que je vous dis, moi-même, il m'est apparu. Je ne pars pas sur des bases de ce que mes ancêtres ont dit ou disent, je pars sur base de ce que les Écritures disent. Il y a la résurrection de Christ. C'est une réalité. Et aujourd'hui, tel que nous sommes là ce soir, Christ est vivant. Et il fait les choses qu'il avait promises de faire. Il avait promis de faire. Donc, c'est une condition, Paul dit malheureuse, hein, que d'espérer seulement de ce que la vie présente peut nous donner. Nous sommes malheureux à ce moment-là. Parce que lorsque nous sommes dépouillés dans cette vie présente, nous perdons tous nos repères. Nous ne sommes nulle part. Vous vous posez la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vous n'êtes pas sûr. Mais quelqu'un qui est sûr, le cantique nous dit, il chante un hymne ici-bas. Il mêle peut-être l'hymne avec ses larmes, mais il sait qu'un jour, il sera sur des bords glorieux. Au verset 19, toujours 1 Corinthiens 15, il dit, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si c'est seulement dans cette vie, eh bien, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » L'espérance que Christ nous apporte va au-delà de cette vie. Bien au-delà. Le Christ mort, Cléopas et son ami, et même pas seulement eux deux, mais tous les autres disciples, ils n'avaient plus d'espérance. Ils avaient perdu toute espérance quant à la délivrance d'Israël. Or, Dieu nous promet la délivrance. Et il a promis à Israël la délivrance. Mais le fait que Christ soit mort, eh bien, Cléopas et l'autre, ben, cette délivrance, en fait, ne viendra plus jamais. Luc 24. Le message, comme j'aime bien vous le dire, le matin, le message est arrivé le matin, n'est-ce pas ? Que Christ est ressuscité. Confirmé par les frères qui sont allés voir, et c'est vrai que le tombeau était vide. Les anges ont parlé aux femmes, mais les anges n'ont pas parlé à Pierre. Et au verset 13, Luc 24, 13, « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Si nos yeux sont empêchés de le reconnaître, alors qu'il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, prions pour qu'il nous ouvre les yeux. C'est de lui que nous avons besoin. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, mais pour que vous en arriviez à être aveugles comme ça, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Alors, cette phrase, il dit, nous espérions. C'est l'imparfait. C'est fini. Cette espérance est perdue. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait de la mort. Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait du péché. Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait tout court. Et maintenant, nous avons perdu cette espérance. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quand on va à l'assemblée, on nous dit qu'il est vivant. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Il y a des anges. Est-ce que vous croyez aux anges? Dieu vous bénisse. Non, ils ont perdu cette espérance. À ce moment-là, ils étaient malheureux. Cléopas et son ami, ils étaient malheureux. Et même les autres disciples, jusqu'à ce que Jésus leur apparaisse. Ou jusqu'à ce qu'eux le reconnaissent. Quand vous le reconnaîtrez, ce qui vous secoue là, cet éraquilon là, il ne vous ébranlera plus. Vous serez calme. Ça va? Oh, vous pouvez toujours être triste physiquement, c'est vrai. Mais au-dedans de vous, vous êtes calme. Vous êtes en paix. Et cette paix intérieure, il n'y a personne d'autre que Christ qui peut vous l'apporter. Vivre sans Christ dans cette vie où il y a plein de choses, plein de déceptions, plein de souffrances, plein de douleurs. Malheureux que d'être sans Christ. Quand on pense parfois, nous qui avons un âge certain, pas un certain âge, quand on pense parfois au bonheur qu'on avait autrefois, quand tout était réuni, aujourd'hui, on est là, on regarde autour, on se dit que finalement, cette vie, ce n'est pas ce que c'était. Quand on était insouciant, Héraculon est celui qui vient nous montrer que nous devons nous soucier. Ce vent impétueux. Avec lui, avec Héraculon, la vie insouciante n'existe plus. Héraculon nous fait réfléchir. Et l'espérance ne va jamais seule sans la foi en un Christ vivant. Il faut que vous ayez la foi d'un Christ, la foi en un Christ vivant. L'espérance et la foi vont toujours ensemble. Et ils ont même un troisième partenaire. C'est l'amour. l'espérance, la foi et l'amour. 1 Corinthiens 13. C'est pour cela que Frère Branham disait souvent, quand Jésus parle, prenez avec lui, toujours, quand il prenait, il choisissait 3 disciples, c'était toujours les mêmes, Jean, Pierre et Jacques. Jean est l'apôtre de l'amour, celui qui parle de l'amour. Jacques est l'apôtre qui nous parle de la foi. La foi avec les œuvres. La foi agissante selon les œuvres. Pierre est celui qui nous parle de l'espérance. Donc, l'amour, la foi, l'espérance. Toujours ensemble. 1 Corinthiens 13 dit, il y a des choses qui peuvent disparaître, mais au verset 13, maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'espérance, elle n'est liée à aucune circonstance. Le vent peut être fort, il peut être faible. Ça peut être éraquilon ou un léger vent du sud. L'espérance ne regarde pas à ça. L'espérance n'est pas liée à vos capacités. J'ai le moyen d'alléger le navire. Non. L'espérance, elle repose sur Dieu, sur un Dieu vivant qui ne peut mentir. Et cette espérance qui repose sur Dieu, ceux qui sont en Christ la possèdent. Nous la possédons. Ils la possèdent non pas comme des clés dans la poche ou un portefeuille dans la poche. Vous savez, j'ai déjà perdu un portefeuille comme ça, sans même me rendre compte, avec toutes mes cartes d'identité, de banque, tout ce que vous voulez, toutes sortes de cartes à l'intérieur, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais l'espérance qui est sur Dieu, vous ne la perdrez jamais. Quoi qu'il arrive. Pourtant, s'il y a quelque chose à laquelle on fait attention souvent, c'est à son portefeuille. Amen. Mais on peut le perdre. Tandis que l'espérance sur Dieu, elle est ancrée en nous. Hébreux chapitre 6. Verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, donc Dieu n'y changera pas, intervint par un serment afin que par 2 choses immuables, sa résolution, le serment, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ça va? Cette espérance, nous la possédons. Pas comme un portefeuille, non, mais comme une ancre de l'âme. L'âme est ancrée là-bas, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Dites amen à ça. Et cette espérance ne peut pas, par conséquent, elle ne peut pas mentir. Cette espérance que vous avez là, hein, que les morts en Christ ressusciteront premièrement, par exemple, Cette espérance-là, elle ne peut pas mentir. Romains 5. Et nous allons prier. Étant donc justifiés par la foi, verset 1er, nous avons la paix avec Dieu. Avez-vous la paix? Si vous n'avez pas, demandez-la à Dieu. C'est souvent le souhait de l'apôtre lorsqu'il commence une lettre. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est la même chose que vous dites lorsque vous dites à votre frère ou à votre sœur, Shalom. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Dites amen à ça. Inébranlable donc, ferme, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Il est ressuscité, nous le savons. Être sans Christ, être sans Christ, c'est être sans espérance. C'est que vous n'en avez pas. Et là, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux au milieu de l'aquilon, au milieu de la tempête. Vous êtes là, vous êtes tellement malheureux que vous vous laissez aller à la dérive. Restez debout. Ne soyez pas cette personne que l'on plaint. Oh, celui-là, regarde depuis que telle chose lui est arrivée. Regarde. Non, non. Restez ferme dans votre foi, dans votre espérance, et les gens seront étonnés en vous regardant et vous poseront la question, mais d'où tires-tu cette force? Dites seulement que cette espérance, vous la possédiez. Vous la mettiez sur Dieu. Amen. Vous n'êtes pas sans Christ. Si vous êtes en Christ, toutes les promesses, elles sont pour vous. Et toutes les promesses sont oui. C'est en lui, oui, qu'est le oui en ce qui concerne toutes les promesses. Prions le Seigneur. Dieu vous bénisse. Père Céleste, ne voulons pas marcher à la dérive, nous laisser emporter par le vent. Il y a des écueils sur le chemin que nous pouvons heurter si nous nous laissons aller à la dérive. Puissions-nous rester maîtres du navire, navire dans lequel nous sommes embarqués. Que par ta grâce, nous sachions prendre la bonne direction. On ne te demande pas d'enlever les écueils, on te demande juste que tu nous fasses la grâce, que nous puissions les franchir, les passer. Alors, la louange et l'honneur ne reviendront qu'à toi seul. Te remercions pour cela ce soir. C'est vrai. Pouvons le dire, l'Héraquilon a soufflé au milieu de nous. C'est vrai que la tempête a fait rage au milieu de nous. Et nous ne savons pas si elle est terminée. Mais nous gardons cette espérance. Sachant que le Dieu en qui nous avons placé toute notre confiance est vivant. Chaque jour, le Saint-Esprit nous parle, nous montrant combien tu es parmi nous. Et cela nous donne la force de continuer. Des moments où nous nous sentons affaiblis, mais le Saint-Esprit est celui, un esprit de force. Il nous renforce et il nous encourage de nouveau. Et nous retournons à Jérusalem comme Cléopas et son ami. Et nous pouvons nous exclamer, c'est vrai, Jésus-Christ est vivant. Celui-là même qui nous délivre de la mort, comme Job, en plein milieu de la tempête, s'est écrié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Puissions-nous y être aussi de cela, avec ce même je sais, non pas parce que Job l'a prononcé, mais parce que nous l'avons expérimenté nous-mêmes en plein milieu de Raculon. Sois béni, sois loué. Te remettons notre chemin du retour entre tes mains et te remercions pour la soirée que nous avons passée. Puissions-nous partir avec un courage nouveau, un zèle nouveau. Bénis tes enfants. Mets le baume dans les cœurs qui en ont besoin. Conduis-nous. Donne-nous ce collier que tu nous promets, sans argent, afin que nous puissions oindre nos yeux, que nous puissions voir des choses cachées qui nous sont destinées. Celles qui sont à toi sont à toi. Celles que tu veux révéler aux tiens, tu les révèles. T'en remercions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.